L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raize automatique à partir de 3900 francs seulement.
Bonjour Jean-François Bodin.
Bonjour Nicolas.
Et on célèbre un anniversaire ce matin puisqu'on va parler des 160 ans de l'allumage du phare Amédée avec votre invité, la directrice du musée maritime.
Bonjour Valérie Vattier.
Bonjour Jean-François.
Et merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cet anniversaire qui est l'occasion évidemment parler du phare Amédée qui est un des emblèmes du Lagon et de la Nouvelle-Calédonie. 160 ans qui seront fêtés le 15 novembre qui est le jour de sa mise en activité d'une certaine façon. Alors, avant de vous parler des festivités qui vont marquer ce 160e anniversaire, on va refaire un peu d'histoire parce que ce phare Amédée, il est mythique en Calédonie. On entend beaucoup de choses. On entend parler de Gustave Eiffel, de l'impératrice Eugénie. Est-ce qu'on peut rappeler rapidement, parce qu'il faudrait des heures et des heures pour parler, mais de son histoire, quand est-ce qu'est née la décision de le construire et comment a-t-il été construit ?
Alors, l'idée de construire ce phare date de 1859, hein, exactement. C'est le gouverneur CC qui était en poste en Nouvelle-Calédonie, qui a alerté la marine française en France de la dangerosité du franchissement des passes. Il commençait à y avoir pas mal de naufrages quand même, dont certains très coûteux, la Seine, l'Aventure, qui étaient des navires d'État. Et donc, il fallait faire quelque chose. Et la décision officielle date de février 1861. Alors non, je suis désolée, mais le phare n'est pas arrivé par hasard en Nouvelle-Calédonie, comme on l'entend bien, enfin pas par hasard, par erreur, bien souvent. Il est vrai qu'à cette époque-là, il y avait une confusion entre Port-de-France et Fort-de-France. C'est d'ailleurs pour ça que Port-de-France s'est appelé Nouméa par la suite. Et donc, pour mettre fin au mythe, ce phare a été mûrement réfléchi, décidé. La hauteur est assez impressionnante pour l'époque, puisque la tour fait 45 mètres, 55 mètres jusqu'au sommet. Donc il était assez démesuré pour les besoins de la Nouvelle-Calédonie. Mais à cette époque, il y avait une volonté de vouloir développer le trafic maritime, notamment entre la Nouvelle-Calédonie et l'Australie, pour faire de la Nouvelle-Calédonie une plateforme maritime dans le Pacifique.
Alors c'est un ouvrage un peu particulier aussi, parce qu'il est en fer. Hein. Il y a peu de phares construits en fer aujourd'hui. Je crois que c'est le seul d'ailleurs qui reste en activité. Oui. Où a-t-il été construit ? Parce que est-ce qu'il a été construit dans les ateliers de Gustave Eiffel ? Est-ce que Gustave Eiffel a joué un rôle dans la construction du phare Amédée ?
Alors pas du tout. Gustave Eiffel trouvait même que c'était une hérésie en fait, cette construction, parce que le papa du phare Amédée, c'est un architecte qui était très connu à l'époque, qui s'appelait Léonce Reynaud, et qui, à partir d'une structure, une ossature métallique type Gustave Eiffel, je rappelle quand même que la tour Eiffel, c'est 20 ans plus tard, après le phare Amédée, et donc type Gustave Eiffel, il a eu, je dirais, l'outrecuidance de l'habiller de tôle de fer, de métal. Et donc, pour Eiffel, c'était complètement inouï, quoi. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas que les structures soient recouvertes de tôle. Il fallait que ces structures métalliques, à l'image de la tour Eiffel,
apparaissent telles qu'elles sont.
Oui, et puis surtout, c'était une flexibilité par rapport au vent, par rapport au mouvement du sol éventuellement qu'il pouvait y avoir. Donc, il ne fallait pas que rigidifier l'ensemble. Mais même Eiffel disait, mais ça ne durera pas, en fait, ce type de phare. Bon, 160 ans plus tard, il n'est plus là. Et Léonce Reynaud était tellement fier de son œuvre, d'ailleurs, qu'il en a...
Il est toujours là, vous voulez dire. 160 ans après, il est toujours
là. Oui, il est toujours là. Oui, il est toujours là. Oui. C'est pas ce que j'ai...
Non, vous avez dit, il n'est plus là. Donc,
ah, pardon. Il est toujours là. Pardon. Excusez-moi. Non, il est toujours là. Et donc, Gustave Eiffel était tellement... Bon, ça y est. Vous m'avez troublé. Léonce Reynaud était tellement fier de son œuvre qu'il en a construit un autre 2 ans plus tard. Donc c'était le phare des Roches d'Ouvres qui a été édifié donc en Bretagne et qui malheureusement a été détruit pendant la Deuxième Guerre
1944,
mondiale.
Voilà. Donc ça, on peut dire que le phare Amédée est le seul de sa génération,
oui,
et de ce type qui existe aujourd'hui.
Oui, absolument. Oui, c'est une pièce unique, c'est un phare dont on peut être très fier.
Alors j'imagine que son fonctionnement a évolué aussi au fil du temps et au fil du développement de la technologie, parce qu'au début il s'allumait à la main, il fallait tous les soirs déclencher l'allumage. Il y a eu plusieurs types, je crois, d'allumage même de cette fameuse lentille. Aujourd'hui, il est enfin électrifié, mais c'est arrivé très tard, tout ça.
Oui, alors au départ, il fonctionnait avec de l'huile de colza. Ensuite, ça a été de la paraffine. Après, du pétrole gazéifié dans les années 1950. Et au final, il a été électrifié en 1985. Mais les derniers gardiens du phare Amédée sont partis en 1990.
Parce qu'aujourd'hui, il existe encore un gardien, mais c'est un gardien de l'îlot et pas du phare, c'est bien
voilà,
ça?
Voilà, c'est ça. Oui, oui, un gardien qui veille à ce que l'îlot soit préservé, qui est très attentif à la conservation et aux accès surtout de l'îlot.
Alors c'est un ouvrage évidemment qui est très important pour les marins et pour les navires, vous l'avez rappelé. Aujourd'hui, qui l'entretient? Qui est chargé de l'entretien du phare Amédée?
Alors c'est le service des phares et balises de la direction la DI3T, donc le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. C'est assez complexe parce que l'îlot appartient à la ville de Nouméa, l'édifice appartient au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, mais il est classé par la province sud et il est aménagé par une entreprise touristique qui est sur place et qui propose des activités. Il y a aussi un club de plongée.
Donc il y a beaucoup d'intervenants entre
guillemets. Voilà, et toute la partie environnement, préservation de la faune, de la flore, c'est la province sud aussi.
Est-ce que dans le milieu maritime, ce phare Amédée a une réputation qui dépasse le lagon et la grande région?
Ah oui, parce qu'il a ce côté exceptionnel, en fait. Et donc, il est assez connu, bien sûr, par les spécialistes des phares en France, mais même dans le monde, parce qu'il est souvent dans les livres dédiés aux phares dans le monde exceptionnel. Donc c'est vraiment un édifice important qui mérite de vivre encore longtemps.
Valérie Vatier, donc le 15 novembre, ce sera le 160e anniversaire. Le phare est illuminé depuis hier soir. Il y a une petite mise en lumière et en valeur de cet ouvrage. C'était vraiment pour marquer le coup. Il fallait faire quelque chose.
Oui, on l'avait fait déjà il y a 10 ans, mais c'était passé. Voilà, c'était plutôt passé inaperçu parce que les moyens, les réseaux sociaux n'étaient pas les mêmes en fait qu'aujourd'hui. Donc là, on a été un peu dépassé par l'énorme buzz qu'il y a eu dès qu'on a lancé la communication. Donc tant mieux. Après, certainement que les gens sont un peu déçus parce qu'il y avait beaucoup de monde au Wento hier soir. Il faut vraiment avoir des jumelles pour voir. En plus, le temps, c'est un peu couvert. Donc, à l'œil nu, c'est très compliqué de voir. Bien sûr, avec un moyen de navigation, c'est encore mieux. Il y avait du monde d'ailleurs autour de l'îlot hier soir.
Oui, parce qu'on peut s'approcher, on peut aller au mouillage comme d'habitude.
Oui. Par contre, le débarquement de nuit n'est pas autorisé. Mmh. Ne serait-ce que pour préserver la faune qui a besoin de se reposer la nuit.
Est-ce qu'il y a, pour le jour anniversaire qui aura lieu le 15 novembre, quelque chose de particulier de prévu?
Alors, ce sera le dernier jour de l'illumination de la tour. Il y a des navettes que j'ai vues, donc ce sont les prestataires qui s'occupent de ça, qui font des navettes le soir pour aller jusqu'à l'îlot. Nous, au musée, on fera rien en fait le 15 précisément. Par contre, le week-end après, 21, 22, 23, on a un spectacle de théâtre qui s'appelait Plein Phare, qui sera joué sur le quai FED, donc devant le musée maritime. Et pour une entrée de musée, les spectateurs pourront voir ce spectacle. Donc, découvrir le musée maritime s'ils ne le connaissent pas et voir le spectacle pour le même prix. Donc, 1000 francs l'entrée, voilà, c'est presque cadeau.
Alors, c'est l'occasion de parler du musée maritime Valérie Vatier, qui fonctionne depuis de très très longues années. Est-ce qu'il continue de s'enrichir de pièces en exposition? Est-ce qu'il se renouvelle de temps en temps?
Alors, nous, on a cette particularité que nos collections, pour 90%, viennent du fond de la mer. Donc, dans ces 90%, la moitié vient des deux épaves de la Pérouse qui ont fait naufrage à Vanikoro. L'autre moitié, ça vient des épaves autour de la Nouvelle-Calédonie. Ces recherches autour des épaves sont portées depuis plus de 40 ans par deux autres associations, l'association Salomon et l'association Fortune de mer. Et c'est vrai que elles ont un peu ralenti leur activité ces dernières années. Donc forcément, il y a moins d'objets qui arrivent, mais il y a eu encore une campagne de fouilles sur la corvette de la Seine qui a fait naufrage en 1846, pardon. Et on a encore des nouveaux objets qui rentrent dans nos collections. Mais c'est tout un travail de préparation avant qu'elles puissent être en vitrine.
Oui, parce que les collections ne sont pas toutes exposées.
Non, loin de là. Non, non, on a des réserves, bien sûr, dans un autre bâtiment. Mais ce sont des collections d'archéologie sous-marine, donc il faut les traiter. Et ça demande parfois des semaines, des fois des mois, des fois des années. Donc voilà, c'est tout un travail en amont avant que ça puisse être présenté au public.
Comment supporte le musée maritime, comme tous les établissements qui accueillent du public? Il est en difficulté aujourd'hui ou il arrive à maintenir un équilibre?
Alors, il est en difficulté, bien sûr. Ça, c'est effectivement quelque chose qui pose problème parce qu'il n'y a aucune visibilité. Hein. On a l'impression d'avancer dans le brouillard. Donc, on ne sait pas du tout d'une année sur l'autre ce qui va se passer. Là, on a eu une découpe budgétaire de nos subventions publiques qui sont à peu près d'un tiers. Nous, on est associatifs. Hein, donc, voilà, notre budget permet aussi de payer les 7 personnes qui y travaillent, faire fonctionner couramment le musée. Et après, il y a tout ce qui est activité qui permet aussi bien de renouveler le musée maritime, de faire venir du public. Donc on se bat au quotidien. Je me bats aussi pour trouver des financements privés. On a eu cette chance en fait d'avoir des aides de plusieurs entreprises là cette année en 2025, mais rien ne dit que ces aides vont être perpétuées pour l'année à venir. Donc voilà, on a besoin de lumière, de voir un peu de la lumière au bout du tunnel ou d'avoir une corne de brume pour essayer d'avancer dans le brouillard.
Et que les Calédoniens et les touristes viennent le visiter aussi, parce que les Calédoniens ne le connaissent pas forcément tous, le musée maritime.
Non. Et puis je précise, parce que j'ai vu passer des choses des fois sur les réseaux sociaux, que l'illumination du phare, c'est sur nos recettes propres. Donc avec les activités qu'on a pu réaliser cette année, on a pu faire en sorte que ce phare soit célébré pour ses 160 ans. Donc ça, sinon personne l'aurait fait. Et pour moi, valoriser le patrimoine maritime, quel qu'il soit, c'est important. C'est impossible de passer à côté, même dans le contexte actuel. Et puis, il faut être fier de ce patrimoine aussi. Donc, si on fait rien, ben voilà, tout va disparaître. Donc, c'est important de soutenir et puis d'essayer de mener ce genre d'action.
Lumière sur le phare Amédée. Valérie Vatier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin.
Merci Jean-François.